France Inter.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
L'affaire du talc Morange. Notre invité, la docteure en pharmacie Laurence Coiffard. Bonjour.
Bonjour Fabrice Drouel.
Vous êtes professeur à la faculté de pharmacie de Nantes, spécialisée en cosmétologie. Co-créatrice du blog Regards sur les cosmétiques. Vous êtes dans les studios d'ICI Pays de Loire, à Nantes, que nous remercions pour leur accueil. Alors, l'histoire que nous venons de raconter est ouvertement dramatique, extrêmement grave, et même révoltante. Est-ce que vous vous souvenez, vous, de la première fois quand vous avez entendu parler de cette affaire du talc Morange ?
Avant de répondre à votre question, je voudrais remercier Rebecca de Nantes et Juliette Proutot de m'avoir invitée et puis également féliciter pour la manière dont l'affaire a été relatée d'une manière tout à fait complète et remarquable. Pour répondre à votre question, bien évidemment, je me rappelle tout à fait du moment où j'ai entendu parler de cette dramatique affaire. Plus exactement, entendu parler n'est pas le terme exact, c'est-à-dire que je me suis renseignée sur l'affaire parce que je commençais juste à enseigner à l'Université de Nantes sur la cosmétologie, qui est ma discipline, et j'ai voulu comprendre comment était née la réglementation dans ce domaine industriel, et c'est comme ça que j'ai découvert l'affaire du talc Morange.
Et dans mes souvenirs, d'ailleurs, ça avait créé beaucoup d'émotions, et je me souviens avoir beaucoup entendu cette information à la radio, j'étais petit pourtant, mais je m'en souviens, ça avait vraiment frappé les Français.
C'est logique, quand on a parlé, et c'est une réalité, de 36 décès, des dizaines et des dizaines d'enfants, nourrissons décédés. Donc, il est bien évident qu'une telle affaire sanitaire qui touche des nourrissons ne peut que provoquer une profonde émotion dans la société française.
Et alors, justement, vous enseignez l'affaire du talc Morange à vos étudiants. Donc, j'imagine qu'à vos yeux, cette affaire est exemplaire. Entendez par là, c'est un vrai exemple, une illustration de ce que peut être un scandale sanitaire. Quels sont les ingrédients justement de cet aspect exemplaire.
Il y a deux raisons pour lesquelles j'enseigne cette affaire très précocement dans le cours. D'une part, c'est à l'origine, on reviendra sur cet aspect-là certainement, c'est à l'origine de la réglementation des cosmétiques en France et en Europe. Il ne faut pas l'oublier. C'est d'abord en France 75 et dès l'année suivante 76 une première directive. Donc on est au cœur du début de la réglementation des produits cosmétiques en France et sur notre continent, ou tout au moins ce qui s'appelle aujourd'hui l'Union européenne. Et également, je veux leur faire comprendre dans une certaine logique, c'est-à-dire que un produit cosmétique peut être éminemment dangereux, puisqu'il peut aboutir au décès de nourrissons. Enfin, dans le cas présent, c'était des nourrissons, mais il peut aboutir au décès de l'utilisateur final. Et je veux absolument appuyer sur ce point-là, parce que bien souvent, on considère les produits cosmétiques, certains utilisent encore d'ailleurs le terme de produit de beauté, ça donne finalement beaucoup d'insouciance, de légèreté au thème, et on a l'impression que il peut rien arriver de dramatique avec ce type de produit. Donc c'est vraiment pour ces deux raisons-là que très précocement, dans mon enseignement, je parle de l'affaire du talc Morange.
Est-ce que vous estimez aujourd'hui que la réglementation sur les produits cosmétiques est pertinente ou qu'il faut encore l'améliorer ?
Alors, toute réglementation, et celle-là comme une autre, est perfectible et il faut avancer. Alors, déjà aussi, premier point, si la réglementation est appliquée d'une manière stricte, on réduit énormément les risques liés à ce type de produit, que sont les produits cosmétiques. Mais il faut encore avancer sur des tas de sujets, en particulier les perturbateurs endocriniens, qui est un problème quand même assez soucieant dans les produits cosmétiques. Donc il va falloir, dans les années qui viennent, petit à petit, ou même le plus vite possible, faire avancer cette réglementation.
Ça veut dire que les produits cosmétiques qu'on utilise tous les jours, certains d'entre eux pourraient être potentiellement dangereux. On peut le dire ou pas ?
On peut le dire. Par exemple, l'usage qui est préconisé de produits renfermant des filtres en usage quotidien, donc y compris l'hiver quand on n'a pas besoin, présente un certain danger. Et puis, tout ce qui est perturbateurs endocriniens, d'usage quotidien, ça aussi, ça présente un certain danger. L'alcool, qui devient monnaie courante dans les produits cosmétiques. C'est un ingrédient sur lequel il va falloir, auquel il va falloir s'intéresser, sur lequel il va falloir se pencher le plus vite possible.
Alors donc, on peut expliquer, on revient au fait, hein, à l'affaire du talc Morange. Au moment des faits, il n'y avait pas de contrôle sur des produits comme ceux-là, parce qu'on considérait que c'était des produits sympathiques, qui ne pouvaient pas faire de mal, par définition, mais au contraire, qui apportaient le bien, le confort. C'était ça le postulat ?
Oui, comme ça l'est toujours, c'est pour ça que je disais que certaines personnes considèrent toujours aujourd'hui, en 2025, les produits cosmétiques comme des produits extrêmement anodins. Enfin, et de ce fait-là, il n'y avait pas de réglementation particulière. Comme il a été très bien rappelé dans le reportage, on entend Simone Veil qui dit, il y a une réglementation sur les médicaments. Et puis, du moment que c'est pas un médicament, c'est un vide assez abyssal. Pour prendre un autre exemple, par exemple, le teint pâle, le teint le plus blanc possible était de mise et on utilisait la céruse, qui est un sel de plomb, et ça depuis l'Antiquité. Et pareil, presque depuis l'Antiquité, la toxicité de ce sel était connue, ou de toute manière, plus près de nous, au XVIIIe siècle, c'était avéré. Et pourtant, il y avait toujours de la céruse dans les produits, dans certains produits de maquillage. Donc, on pensera aussi, il y avait des hormones, par exemple, il pouvait y avoir des substances radioactives, on pensera à la marque Toradia. Donc, c'était sans limite, et toutes sortes d'ingrédients particulièrement nocifs pouvaient être utilisés sans aucune limite.
Et les crèmes solaires, parce qu'on utilise beaucoup, beaucoup de crèmes solaires, ça va venir, d'ailleurs, on arrive en été, que ce soit en vaporisateur ou en crème, ça peut poser des problèmes ?
Alors, il est impératif de se protéger quand l'indice UV est fort, donc à partir de 3, quand c'est une nécessité, parce que ça fait partie de ce qu'on appelle la stratégie globale de prévention des cancers cutanés. J'insiste sur le terme de stratégie globale, parce qu'il ne faut pas oublier les vêtements, chapeaux, lunettes, qui sont tous des modes plus économiques, plus écologiques et plus efficaces que la crème solaire même. Mais il existe bien évidemment toujours des zones de peau qu'on ne peut pas protéger par des vêtements. C'est le visage, c'est les mains, c'est pieds, jambes. Et sur ces zones-là découvertes, on doit appliquer de la crème solaire en période où les indices l'exigent.
Certes, mais ce qui peut être dangereux, je veux dire.
Ils peuvent être dangereux, le terme est sans doute excessif. En usage quotidien, oui, certainement, puisque certains sont allergisants et ou perturbateurs endocriniens. Donc, il faut bien les limiter à une période où on en a réellement besoin, et pas mettre sa peau en contact 365 jours sur 365 jours, 365, avec des filtres UV.